vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Habacuc. Ces petits prophètes, il y en a 12. Et donc c'est important pour nous de lire toute la Bible. Il y a des fois des livres sur lesquels on passe vite parce qu'ils sont du tout petits et puis ils sont entre deux grands livres et on peut passer très vite. Mais nous sommes encouragés à lire toute la parole de Dieu. Et je me souviens de ce frère qui est venu pour enseigner nos jeunes lors de la dernière rencontre régionale que nous avons eue ici des jeunes adultes. Il voulait les encourager à lire toute la Bible. Il a dit, si vous ne lisez pas toute la Bible, imaginez, vous arrivez au ciel, puis vous voyez quelqu'un qui vient en face de vous et puis qui vous dit, bonjour, je m'appelle Habacuc. Vous dites, Habacuc, jamais entendu, hein? Vous serez dans la confusion, n'est-ce pas, hein? Il dit, mais oui, j'ai écrit un livre de la Bible. Ah, là, vous êtes vraiment dans la confusion. Vous n'avez jamais lu ce que Dieu a dit par le prophète, par son prophète Habacuc. Donc, il est important de lire tous les livres de la Bible et de les étudier parce que c'est la parole de Dieu. Pour situer le contexte, je vous rappelle que ce livre a été écrit à peu près 7 siècles avant Jésus-Christ et que Habacuc, dans ce livre, est un prophète de Dieu. On ne connaît pas beaucoup de choses de lui, seulement ce qui est dit là. Contemporain, probablement de Jérémie et de tous ces grands prophètes-là que vous connaissez. Il a prie Dieu avec instance, avec persévérance, parce que son peuple de Juda est un peuple qui est spirituellement et moralement décadent. Et il demande à Dieu d'intervenir pour secouer ce peuple. Et certainement, il s'attend à ce que Dieu intervienne en suscitant un réveil dans le cœur du peuple. Mais Dieu dit qu'il va susciter des Chaldéens, un peuple méchant, furibond, orgueilleux, qui ne croit qu'en sa propre force pour venir châtier le peuple de Dieu. Et cette réponse de Dieu plonge Habacuc dans l'incompréhension parce que il sait que Dieu est un Dieu saint, que Dieu est un Dieu juste. Et il sait que ce peuple-là est pire encore dans son comportement et dans son attitude que le peuple de Juda. Il dit, comment Dieu pourrait-il, lui qui est juste, utiliser le plus méchant pour châtier plus juste que lui? Et au chapitre 2, eh bien, Habacuc dit qu'il est à son poste, qu'il attend, qu'il veille pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Et puis l'Éternel répond par une prophétie qu'il demande à Habacuc d'écrire, de graver. Chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adresse la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, qu'on puisse la lire facilement. Donc Dieu veut que sa parole soit, on avait dit, soit annoncée, soit reçue, qu'elle soit annoncée, qu'elle soit connue, pour que les gens puissent, les personnes puissent se tourner vers lui. Mais il dit, mais c'est une prophétie qui vient, qui arrive. D'accord? C'est la prophétie vers la fin. Et puis, au milieu de tout ce qu'il dit ici, il dit qu'il va punir ces Chaldéens. Bien sûr, Dieu suscite des instruments, mais il est juste. Il connaît l'attitude et le cœur de ces Chaldéens et il va aussi les juger. C'est ce qu'il dit dans la suite à partir du verset 4. Il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite. Et puis au verset 5, il dit, pareil à celui qui est ivre, arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira. Et puis il dit malheur, il prononce plusieurs malheurs ainsi sur cette nation. Il dit malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang Verset 15, malheur à celui qui fait boire à son prochain, à tout et à toi qui verse ton outre et qui l'enivre. Et puis verset 19, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Il parle ici de l'idolâtrie. Donc voilà, Dieu montre qu'il va juger aussi ces Chaldéens. Mais au milieu de tout ce qu'il dit ici, il dit, j'ai sauté exprès une partie du verset 4, c'est parce que vous avez fait attention, il dit, je relis le verset 4, voici mon âme s'enfle, pardon, voici son âme, pardon, s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que Dieu dit ici à Habacuc. C'est un verset, tout petit verset, n'est-ce pas, toute petite phrase, mais qui a des répercussions extrêmement grandes. C'est ce verset est cité trois fois dans le Nouveau Testament, hein, dans Romains chapitre 1, verset 17, dans Galates chapitre 3, verset 11, et dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Hein. Donc, et à chaque fois cité pour... parfois on dit, hein, pour montrer les trois aspects de ce que Habacuc dit ici. Habacuc ne développe pas autour de ce verset, mais l'apôtre Paul l'utilise par deux fois, et puis une fois l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hein, pour parler bien sûr de la foi, de la vie par la foi, et puis de la justification, hein, le fait qu'on est juste par la foi, l'apôtre Paul le cite aussi. Et ce verset est le verset pris dans Romains chapitre 1, 17, qui a été... un peu un verset qui a déclenché toute la foi véritable et l'assurance de Martin Luther, hein, qui raconte qu'il était allé à Rome et puis qu'il gravissait ce qu'on appelle l'escalier saint. Vous savez, on dit que c'est par là que Pilate est descendu, etc. Et c'était donc on est à Rome, hein, donc ça a été transporté depuis Jérusalem jusqu'à Rome, et puis vous savez comment c'est, hein. On fait des pèlerinages autour de ces choses, on gravit cela avec les genoux, et subitement ce passage vient à son esprit, lui qui se posait tant de questions sur conscient de son péché, conscient de la loi de Dieu, conscient qu'on ne peut pas vraiment obéir complètement à cette loi, et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré de ce poids de la culpabilité de ce péché. Et ce verset vient à son esprit, et puis il dit qu'il quitte le lieu précipitamment, et vraiment il va méditer là-dessus, et c'est là qu'il va acquérir sa conviction sur le salut que Dieu offre par la foi et non par les œuvres, hein, par la foi et non par les œuvres. Et ça donne, voilà, l'homme que ça a donné avec tout ce que cela a engendré avec la réforme et tout ça. Donc c'est un verset qui est, on pourrait dire, la clé de voûte de ce passage, mais le condensé aussi de l'évangile. L'homme, le juste, vivra par sa foi ou par la foi. Mais dans le contexte où il s'est utilisé ici, le verset donné ici, c'est le contexte, c'est un contraste que Dieu établit entre les Chaldéens furibonds et cette situation de jugement imminent qui arrive, parce que c'est ce que Dieu annonce ici. On faisait remarquer que dans ce livre, il n'y a aucun endroit où il y a un appel à la repentance. C'est le jugement de Dieu qui est annoncé et qui sera inévitable. Inévitable. Et Habacuc, il voit cela. Et Dieu lui dit, voilà, le furibond chaldéen, le peuple sera jugé, mais celui qui est juste, il vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Au sein de cette difficulté, de cette désolation, de ce jugement, le juste vivra par la foi. Et Habacuc est là avec son incompréhension, le mal qu'il voit autour de lui, ce qu'il sait de Dieu, qui est un Dieu bon, qui est un Dieu puissant, qui semble ne pas répondre, ne pas intervenir. On a parlé du secours tout à l'heure, mais regardez pour ce que Habacuc disait dans sa prière au début. Jusqu'à quand, chapitre 1, verset 2, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi avec violence et tu ne secours pas. On vient de célébrer le Dieu qui nous secourt, qui est un secours. Et voilà l'expérience d'Habacuc qui dit « Mais tu ne nous secours pas et je crie pourtant à toi » parce que Dieu va juger ce peuple, n'est-ce pas? Alors Dieu, bien sûr, il est celui qui nous secourt, mais il peut avoir des choses qui se passent, des circonstances, des tragédies dans lesquelles nous vivons et on a l'impression, on peut avoir l'impression que Dieu ne secours pas, n'est-ce pas? Il suffit d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas, pour se rendre compte des nombreuses difficultés de l'existence humaine. Les accidents en tout genre frappent les hommes et les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur âge. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui du Covid-19, n'est-ce pas? Tout le monde a peur du Covid-19, c'est la catastrophe planétaire, n'est-ce pas? Mais la douleur n'a pas attendu le Covid-19 pour exister. Il faut être conscient de cela. Les cancers, les difficultés liées à la vieillesse, existent depuis bien longtemps. Et vous avez certainement parmi vos membres des personnes qui sont atteintes de maladies, d'Alzheimer par exemple. Et c'est une détresse et de plus en plus de personnes sont atteintes de cette maladie ou du cancer, ou d'autres pathologies. Donc la tristesse et la douleur souvent vient envahir les cœurs des personnes qui perdent un être cher, par exemple. Et ça existe partout sur toute la surface de la Terre. Et dans certains pays, à ces maux que nous connaissons viennent s'ajouter bien d'autres, comme les guerres, les meurtres perpétrés par des dictateurs, souvent. Et que dire de ce qu'on appelle souvent les catastrophes naturelles? Pas tremblements de terre, tsunamis, cyclones, ouragans, qui produisent parfois des centaines, des milliers, des centaines de milliers même, parfois des millions de victimes. Et on pourrait penser à la famine, à la faim dans le monde, à la malnutrition. J'ai lu qu'en 2017, 815 millions de personnes ont faim dans le monde et se couchent le ventre vide. 815 millions de personnes. Et en 2015, il y a eu 9 millions de morts dues à la malnutrition. Donc chaque année, c'est à peu près le même nombre. Vous imaginez? Alors, bien sûr, je ne dis pas que le Covid est une chose gentille, mais je pense que parfois, on se laisse cacher la forêt par un arbre. C'est-à-dire, on se focalise sur quelque chose parce qu'on est arrivé à une époque où il y a des médias ou des, je sais pas quoi, des moyens technologiques qui nous permettent de focaliser sur quelque chose à un moment donné, en oubliant tout le reste. Mais la souffrance et la douleur existaient à l'époque d'Habacuc. Elle a existé depuis que le monde existe et jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que nous vivons n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il y a pire que cela. Il y a eu pire et peut-être qu'il y aura pire que cela. Et ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas de nous apeurer comme le monde s'apeure, mais c'est de savoir comment on doit vivre dans ces circonstances. Et c'est ce que Dieu montre ici à Habacuc. Que ce soit les circonstances de jugement, ce qui peut être le cas aussi, d'accord ? Parce que je lisais tout à l'heure, le frère nous a fait lire Lamentation, et puis mon œil est tombé pendant qu'on lisait dans Lamentation sur ce verset, Lamentation chapitre 3, et je vous lis, et Jérémie dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?» Je me souviens de cet homme qui m'a appelé au téléphone, qui m'a demandé, « Est-ce que vous dites que cette épidémie, c'est le jugement de Dieu. » Je dis, je ne peux pas dire quoi que ce soit, mais je sais que Dieu utilise toute chose, hein, et qu'il peut utiliser tout pour parler. La Bible dit que Dieu utilise, et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Hein. Mais ici, Jérémie dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent, écoutez bien, les maux et les biens ?» Et c'est ce qu'Habacuc vit ici. Dieu lui dit, c'est moi qui ai suscité les Chaldéens pour ceci. Et dans d'autres passages, on voit que Dieu dit, j'ai envoyé la peste, j'ai envoyé la famine, j'ai envoyé ceci, j'ai envoyé la sécheresse dans Agée. Et donc Dieu utilise toutes ces choses. Il ne faut pas, en tant qu'enfant de Dieu, que nous nous soustrayons au fait que Dieu est un Dieu souverain sur toutes choses et qu'il agit sur toute chose. Et qu'il peut utiliser tout dans un dessein qui nous échappe, qui échappe à notre petite et finie intelligence. Mais il peut utiliser toute chose pour la gloire de son nom. Et que ce qu'il donne comme, si vous voulez, comme principe de vie, c'est que le juste vivra par sa foi. Il ne dit pas par sa connaissance, il ne dit pas par sa compréhension de ce que je fais, mais il dit que le juste vivra par sa foi dans, bien sûr, la foi en Dieu. Pas la foi tout seul, n'a pas de la foi, doit ouvrir un objet. Sa foi, bien sûr, en Dieu. Et donc Dieu ne répond pas ici aux questions d'Habacuc, qui lui donne aucune raison, aucun argument sur ce qu'il fait. Mais elle lui dit, le jugement arrive et c'est certain. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, la seule manière de traverser ce jugement est de vivre par une foi véritable en Dieu. Et il la met en contraste avec la manière de vivre orgueilleuse, hein, parce qu'il dit ici, son cœur s'est enflé, son âme s'est enflée, il est orgueilleux et arrogant. Hein, et c'est ces deux manières, il n'y a que deux manières de vivre, hein, soit on vit par la foi, soit on vit par l'incrédulité et l'orgueil. Hein, mais il montre ce qui arrive aux orgueilleux, ils seront sous plein de malheurs et ils seront détruits. Alors, je voudrais souligner encore deux choses ce matin avec ce verset. Et le juste vivra par la foi. Et j'ai intitulé donc ce message « Vivre par la foi au sein de la désolation hein, ». On pourrait dire « Vivre par la foi au sein de la désolation ». Premièrement, c'est que la foi rend tangible la parole de Dieu, qui sont encore voilées. La foi rend tangible pour nous les paroles de Dieu qui sont encore voilées ici. Ce qu'Habacuc vit ici n'est pas encore réalisé. Mais Dieu lui dit qu'il faut qu'il vive dans une attitude de foi par rapport à la parole de Dieu. Et ceux qui vont vivre véritablement, c'est ceux qui auront placé leur confiance en Dieu. Ceux du peuple de Juda qui vont vivre, c'est ceux qui auront placé leur confiance vraiment en Dieu, qui auront cru à sa parole, qui se seront attachés à lui, et qui vont pouvoir vivre au sein de cette et délivrer de cette désolation. La foi rend tangible, je dis, les réalités de la parole de Dieu, les réalités de la parole de Dieu qui sont encore voilées pour nous. Qu'est-ce que la foi? Alors, souvent on peut poser cette question, je sais pas quelle est votre définition de la foi, hein, mais on prend parfois la foi, les gens disent, moi j'ai pas la foi. Ils estiment que toi tu l'as, c'est une espèce de force que tu as en toi, et puis que, voilà, tu es capable de croire que les choses vont changer. Et puis, tu es tellement capable de croire que ça va changer, on croit tellement à ces choses-là que voilà, ben les choses finissent par changer pour nous. On appelle ça trouver des ressources en soi pour pouvoir surmonter les difficultés. Mais la foi, ce n'est pas cela. Hein. Parfois, on peut aussi penser que la foi, c'est ma capacité à croire que Dieu peut faire quelque chose. Ok? Quelque chose qu'il n'a jamais fait ou pas, ou je ne sais pas, ou quelque chose que j'ai envie qu'il fasse. Et puis j'ai tellement de foi qu'il, et finalement il le fait. D'accord? Mais ce n'est pas ça la foi. Dieu peut faire des choses qui ne sont pas selon sa volonté. Il a donné de la viande au peuple d'Israël qui demandait de la viande. D'accord? Mais on voyait bien que ce n'était pas la volonté de Dieu parce qu'il a envoyé le dépérissement dans leur âme. Il pourrait dire, nous avons la foi, nous avons prié pour que Dieu nous donne la viande, nous avons crié, Dieu nous a donné de la viande. Non, ça, ce n'est pas la foi, hein, non plus. Et donc, c'est quelque chose qui est très certainement large à définir, mais j'aimerais juste m'arrêter sur une définition que nous trouvons dans Hébreux au chapitre 6. Si vous regardez Hébreux au chapitre 6, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » D'accord. Donc le verset, je relis, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez ici, ce n'est pas la définition complète de la foi ici. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ici. Mais Je pense que par rapport à tous les hommes de foi que l'auteur de l'Épître aux Romains va citer après, je crois qu'il résume un petit peu la foi déjà de cette manière-là, parce qu'il veut nous faire sentir les choses qui sont dans ce verset à travers la vie de toutes ces personnes-là. Et donc, ici, on voit que la foi est liée avec l'espérance, quelque part, et puis aussi avec l'invisibilité, je pourrais dire. Pas sûr qu'on peut dire ça comme ça. Hein. Parce qu'il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors bien sûr, certaines personnes se sont basées sur ce verset pour dire, mais la foi, c'est une espèce de saut dans le vide, quoi, dans l'inconnu. On ne voit pas et puis on saute dans le vide, peu importe. Hein. Ça n'est pas du tout cela que le passage dit ici. Mais c'est vrai qu'il faut, d'une certaine manière, il faut voir pour croire. On est d'accord? Les disciples ont cru, même Jésus dit à un moment à ses disciples, il dit dans Jean chapitre 14, il leur dit, « Je vous ai dit ces choses à l'avance, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Autrement dit, il est en train de dire, « Je vous le dis, comme ça, quand vous allez le voir s'accomplir, alors à ce moment-là, vous allez croire. » Ok? Et on voit qu'il y a eu des épisodes comme ça lors de la résurrection de Jésus, où il est dit que les disciples se rappelèrent que Jésus leur avait dit cela. Et c'est à ce moment-là que leur foi devient, dans ce qu'il avait dit, devient plus forte. Et nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ, non pas parce que nous l'avons vu, mais parce que nous croyons à ceux qui ont vu véritablement de leurs yeux. Il a fallu qu'il y ait des témoin oculaire, hein, un apôtre devait être un témoin oculaire pour, il devait avoir vu Christ. L'apôtre Paul souligne ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc il y a une manière de, par laquelle on croit après qu'on ait vu ici. Mais la foi, la vie par la foi qui nous est demandée, c'est une vie aussi qui repose même sur ce que l'on n'a pas, qui embrasse même ce que l'on n'a pas vu. Et c'est ce que nous dit ce passage ici. Le mot qui est traduit par assurance, hein, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est un mot qui peut vouloir dire substance parfois ou réalité. Par exemple, la nouvelle Bible seconde l'a traduit comme ceci. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi vient nous permettre de nous accaparer d'une vérité qu'on espère et qu'on ne voit pas encore. Et donc le terme substance contient vraiment l'idée de quelque chose qui a du poids. La foi, ça a du poids, ça pèse. C'est quelque chose qui a une grande valeur et elle donne toute sa réalité pour nous à une promesse qui a été faite par Dieu. Je ne vois pas encore la chose, mais par la foi, cette chose prend une réalité. Elle est réelle, mais elle prend pour moi véritablement une réalité. Et donc, dans ce sens, on pourrait dire, la foi est considérée comme ce qui s'empare de quelque chose, de ce qui est espéré. Pas ce que moi j'espère simplement, mais ce qui m'est proposé comme espérance dans la promesse de Dieu. Il y a un lien ici entre la foi, bien sûr, et la parole de Dieu. On y reviendra. Donc pour la foi, ce qui est promis, mais qui n'est pas encore manifesté, devient tangible. C'est pour ça que je disais que la foi rend tangible les réalités, elle rend palpable les réalités de la parole de Dieu qui ne sont pas encore manifestés ou qui nous sont encore voilés ici. Et c'est pour cela qu'il est question que c'est une assurance, une démonstration, une preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi est une preuve des choses que l'on ne voit pas. Sous-entendu, bien sûr, les choses qui sont annoncées par Dieu, ces promesses qui sont bien réelles et qui nous sont données dans sa parole. Plus loin dans l'épître aux Hébreux, par exemple, quand l'auteur de l'épître aux Hébreux énumère les exemples de tous ces hommes de foi, il parle de Moïse et il dit qu'il a regardé comme c'est par la foi. On peut regarder Hébreux 11 verset 27. On va bien le réciter quand même. Hébreux 11 verset 27 où il dit c'est par la foi que Moïse il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Par la foi, il a été affermi parce qu'il a été comme celui qui voit ce qui est promis, même si la chose n'est pas encore réalisée. Il se l'est accaparé. D'accord? C'est ça un peu. Il croit et cette chose est devenue une réalité tangible pour lui. Et c'est ça qui l'a permis de traverser et de partir de l'Égypte sans être effrayé. C'était invisible aux yeux de tout le monde, c'était invisible à ses propres yeux, mais par la foi dans son cœur, il a cru à cette parole de Dieu et ces choses ne sont pas devenues réelles parce qu'il a cru, elles étaient réelles. Mais il a pu s'appuyer sur elles, ça a pu prendre corps pour lui parce qu'il a eu la foi. Concernant Noé par exemple, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses, quoi, qu'on ne voyait pas encore. D'accord? La Bible dit par la foi, Noé est divinement averti par Dieu, donc les paroles de Dieu lui donnent des choses qu'il ne voit pas encore. Et il est saisi donc d'une crainte respectueuse, il construit l'arche pour sauver sa famille. Et puis il dit, car c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On trouve ça aussi dans Hébreux au chapitre 11 et au verset, donc Noé c'est avant, donc on va le trouver au verset, combien j'ai dit ? 7, voilà, merci, hein, au verset 7, d'accord ? Et donc la parole de Dieu est adressée à Noé, dans Genèse chapitre 6, et puis Dieu lui demande de construire une arche car la méchanceté des hommes est arrivée à son comble et qu'il va envoyer un déluge. Et il semble que Noé mette à peu près, d'après les calculs hein, que certains ont fait, 120 ans à peu près pour construire l'arche. C'est énorme, vous imaginez 120 ans. C'est énorme. Et pourquoi faire ? Pour construire quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. C'est lui qui va être le prototype la première fois. Pour attendre un déluge qu'il n'a jamais vu de sa vie, il n'avait pas plu à cette époque, il n'était pas à côté de la mer, il n'y avait pas ces choses-là, en pleine terre, d'accord ? Et pour faire quoi ? Pour sauver sa famille. Il a dû agir vraiment sans voir ce qui allait se passer. Il a dû croire que sa famille aurait été sauvée dans ce que lui est en train de construire, et pour subsister à une catastrophe que le Dieu trois fois saint allait envoyer sur la terre. Il fallait de la foi pour croire ça. Mais la Bible dit qu'il a cru à ces paroles de Dieu. Il ne l'a pas vu. Il a cru hein, à ces paroles de Dieu. Et il a construit l'arche, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et les montagnes d'évidence visibles qu'il a pu avoir pendant 120 ans. Imaginez les gens qui se sont moqués de lui. Ce gars-là, il est fou. D'accord ? Ou ce petit enfant qui passe. Papa, qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? T'inquiète pas, ça fait longtemps qu'il est là. Il est en train de construire on ne sait pas quoi, on ne sait même pas à quoi ça sert. C'était très très grand. Bon. On peut imaginer toutes les moqueries qu'il a pu connaître, comme les chrétiens connaissent des moqueries encore de nos jours. Hein. On croit à des balivernes. Hein. Ça fait longtemps qu'on dit que Jésus va revenir. Bon, il est où hein. Des 2000 ans qu'on dit ça. Bon, OK, pareil pour Noé. 120 ans. Et la Bible dit, dans Jésus cite cette période où il dit que pendant, il parle du retour du Seigneur, il dit ce sera comme au jour de Noé. Les gens, ils mangent, ils boivent, ils marient leurs enfants, ils font tout ce qui est là. Ils ne s'inquiètent pas. Et ils ne savent que le déluge va venir que lorsque le déluge est venu. Mais Noé sait que le déluge va venir 120 ans avant que le déluge ne vienne. C'est une réalité pour lui parce qu'il l'a cru dans la parole de Dieu. De même que les croyants qui placent leur confiance en Jésus-Christ, ils savent que Jésus-Christ va revenir. Ils ne seront pas surpris qu'il vienne parce qu'ils le croient. Et c'est une réalité pour eux. Ceux qui vont le découvrir ce jour-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard ici. Et donc, la foi vraiment rend tangibles les réalités de la parole de Dieu pour nous. La foi biblique consiste à agir sans autre preuve que la parole de Dieu toute seule. Et bien souvent, elle doit agir face aux évidences visibles qui semblent nous dire le contraire même. Et dans le cas de Noé, c'était vraiment la même chose. La foi de Noé a mis, si j'ose dire, l'invisible en évidence. C'est ce que le texte dit. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une évidence des choses qu'on ne voit pas. Et ça lui a permis de triompher contre toutes les évidences visibles. Contre la montagne même, on pourrait dire, d'évidences visibles. La fin du verset dans Hébreux dit « Car c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Habacuc n'a pas vécu suffisamment longtemps pour voir le jugement que Dieu allait faire s'abattre sur ce peuple. Mais il a, dans le chapitre 3, quand on lit plus loin, exprimé sa foi, vraiment dans un cantique. Il a exprimé sa foi en Dieu. Il a cru en Dieu. Il a cru à ses paroles que Dieu lui a données en disant que le juste vivra par sa foi. Donc certes, ses yeux voyaient le mal, la décadence qui était dans le peuple, mais il a cru ce que Dieu lui a dit, le juste vivra par la foi. Je voudrais vous citer ce que Jean Calvin a dit concernant quelque part cette lutte qui existe entre le fait de s'accaparer les choses par la foi et puis la réalité visible. Il dit ceci, il dit « L'Esprit de Dieu nous découvre les choses cachées dont nulle connaissance ne peut parvenir jusqu'à nos sens. On nous parle de résurrection bienheureuse, mais cependant nous sommes environnés de pourriture. Nous sommes déclarés justes et cependant le péché habite en nous. Nous entendons dire que nous sommes bienheureux, cependant nous sommes accablés de misère infinie. On nous promet l'abondance de tout bien, et toutefois nous endurons en réalité la faim et la soif. Dieu nous crie qu'il nous assistera sans tarder, mais il semble qu'il a les oreilles bouchées à nos clameurs. Que ferions-nous donc si nous n'étions appuyé sur une espérance, et si notre entendement au milieu des ténèbres ne s'élevait au-dessus de tout ce qui est en ce monde, ayant devant nous la parole et l'Esprit de Dieu pour guide? C'est pourquoi la foi est appelée à bon droit substance des choses qui n'existent pas encore et qu'en espoir et en évidence espoir et évidence des choses non apparentes. Ah, c'est bien dit. Il dit, voilà, si on a cette contradiction qui semble exister, l'Écriture nous promet beaucoup de choses, secours de la part de Dieu. Parfois, on a l'impression que quand on crie, il n'y a rien qui vient. Mais Dieu dit, quand vous avez l'impression que rien ne vient, que rien ne va, que tout et contre vous, au contraire, il dit, le juste vivra par la foi. La foi dans les promesses de Dieu. D'accord? Qu'il ne nous laissera pas périr. Et qu'il est notre secours. Ce n'est pas le fait que nous sentions qu'il n'y a pas de secours qui est une réalité. Ce qui doit être une réalité, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça qui doit demeurer une réalité. Donc, je dis que la foi rend tangible les réalités de la parole de Dieu qui nous sont encore voilées. Puis deuxièmement, je voudrais souligner que la foi en Dieu est l'unique principe de vie du croyant ou du juste. La foi en Dieu est l'unique principe de vie du croyant. Le juste vivra par la foi. Dieu ne dit pas à Habacuc que le juste vivra d'un peu d'explication, un peu d'argumentation de la part de Dieu, et puis aussi un peu de foi. Mais il dit simplement qu'il vivra par la foi. Le juste vivra par... Il n'y a rien d'autre qui soit donné au juste pour qu'il puisse vivre, et particulièrement vivre au sein des difficultés. Alors bien sûr, quand tout va bien, on peut toujours penser qu'on a la foi, qu'on a, etc., parce que les choses nous sont favorables. Mais quand les temps sont difficiles, d'accord, nous avons besoin de savoir que, qu'il soit difficile ou pas, c'est par la foi qu'il faut vivre. Mais particulièrement quand ils sont difficiles, c'est là qu'on expérimente vraiment qu'il faut vivre une vie par la foi. Le juste est celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Il n'y a pas de juste, d'accord, qui ne soit pas en Christ. D'accord, nous sommes justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 et au verset 1. Donc le juste, il a cru en Jésus-Christ, à l'efficacité de sa mort, de sa résurrection, pour le délivrer de son péché et pour le préserver de la colère de Dieu. Mais la foi n'est pas qu'un acte ponctuel, d'accord, quelque chose que j'ai fait il y a quelque temps, en plaçant ma confiance en Jésus-Christ. Elle, c'est un principe de vie. On pourrait dire ici, c'est un principe actif. C'est le principe actif. On parle de médicaments, on parle de principe actif de médicaments. Mais la foi est le principe actif de la vie du juste. Elle alimente sa vie, elle soutient sa vie. Elle est la manière de vivre qui sied en temps de crise comme en période plus confortable. Le texte ne dit pas que la foi fait partie de la vie du juste. Il dit que la foi... c'est la vie du juste. Le juste vit par la foi. C'est comme si on disait, on vit en respirant. On vit par la foi. Ici. Elle est l'essence de la vie. Il vivra par elle. Autrement dit, sans elle, il ne vivra pas. Il n'y a pas de vie pour le juste autrement qu'une vie par la foi. Et le théologien puritain anglais, John Owen, dans un commentaire sur le rôle de la foi, il déclare ceci, il dit « La foi seule a été l'unique principe adopté dans l'Église pour vivre selon Dieu, obtenir les promesses, hériter de la vie éternelle. Et elle le sera jusqu'à la consommation de toutes choses. La vie spirituelle s'obtient par la foi, tout comme la victoire, la persévérance et le salut. » D'accord. La foi a été l'unique principe adopté dans l'Église pour vivre selon Dieu et dans la vie de chacun ici. Donc il est impossible de dissocier le juste et la foi. On ne peut pas trouver quelqu'un qui dit « Moi, j'ai cru beaucoup, j'étais plein de foi à un moment donné de ma vie maintenant. Bon, j'ai grandi spirituellement. Oh, je fais des choses, j'ai pas vraiment besoin d'avoir foi en Dieu. » Pour non, il n'y a pas de vie véritable sans la foi dans les paroles de Dieu. Dieu lui-même établit pour Habacuc un contraste entre l'orgueilleux, chapitre 2, verset 5, qu'on a lu, et puis celui qui connaît Dieu. L'orgueilleux qui ne met sa confiance que dans sa propre force, et le juste qui met sa confiance dans la force de Dieu et dans son Dieu. L'homme, Spurgeon disait, l'homme qui a la foi en Dieu est juste, et l'homme qui est juste a la foi en Dieu. On peut pas dissocier les deux. L'homme qui a la foi en Dieu, il est juste. D'accord? Parce que celui qui a la foi en Dieu, il est justifié par sa foi. Mais celui qui est juste aussi, il a la foi en Dieu. Autrement dit, la foi, ce n'est pas quelque chose juste de ponctuel, c'est quelque chose qui est continué, hein, c'est quelque chose de continuel. Il n'y a pas de juste sans foi initiale, bien sûr. Hein, l'apôtre Paul, quand il cite ce passage de l'épître d'Habacuc dans l'épître aux Romains, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, quand l'évangile est révélé, la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. D'accord? Cette foi initiale à l'évangile, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Christ. Mais, de notre côté, le juste exerce aussi une foi continuelle. Et c'est ce qu'on trouve dans l'autre citation de ce passage d'Habacuc dans le livre, l'épître aux Hébreux. Regardez Hébreux chapitre 10. Nous avons lu la première partie d'Hébreux chapitre 10 ce matin. Hébreux chapitre 10. Et à partir du verset 32, je vous lis, nous lisons ceci. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. L'apôtre, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le Saint-Esprit, en tout cas, ici, exhorte ses croyants en leur disant de se souvenir de leur étape initiale, ce qu'ils ont fait au début de leur expérience chrétienne, où ils ont connu l'Évangile, ils ont été éclairés, ils ont été au milieu de l'affliction, ils ont soutenu, ils ont persévéré au milieu de cette affliction. Il dit, d'une part, exposé au spectacle, en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs. Ils n'ont pas encore vu ces biens-là, mais par la foi, ils savent qu'ils ont des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Et là, ce sont les paroles d'Habacuc qui sont ici. Hein. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et ce que l'auteur fait ici, c'est qu'il encourage ses croyants à persévérer dans la foi, à continuer. Cette foi que vous avez eue au début, il dit, il faut que vous l'ayez toujours, que vous continuez à croire que vous avez des biens meilleurs et qui durent. Il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas abandonner cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Non, vous ne la voyez pas maintenant, mais elle est réelle. Et par la foi, vous devez vous en saisir, parce que le juste vivra par la foi. Et donc, la foi en Dieu est l'unique, vraiment, principe de vie, ici. Je vous cite encore quelqu'un d'autre qui disait, « En marchant avec Dieu, un homme ira aussi loin que sa foi le pousse, pas plus loin. Sa vie sera toujours proportionnée à sa foi, sa paix, sa patience, son courage, son zèle, ses œuvres, tout sera conforme à sa foi. » On n'ira pas plus loin que notre foi. Parfois, on peut dire la prière, la lecture. Oui, toutes ces choses sont importantes. Mais elles ne trouvent leur plein potentiel que dans une foi réelle en Dieu. Quand on lit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il n'est pas dit, c'est par la prière que Abraham a fait ceci, c'est par la prière que Noé a fait ceci. Et certainement, c'était des hommes qui priaient, plus que nous le faisons peut-être. Mais la parole de Dieu dit, c'est par la foi. Et ce qui est mis en évidence dans tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est la foi de ces hommes. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à cause de leur vie de foi, ici. Et c'est ça qui est mis en valeur. Hébreux 11, 39 dit par exemple, ici, hein, « Tout cela, à la foi desquels il est rendu témoignage. » Dieu rend témoignage à la foi de ces personnes. Le monde ne rendra pas témoignage à la foi de ces personnes. Parfois même dans les milieux chrétiens, on rend témoignage au fait que les gens, ils ont écrit de grandes choses, ils ont, pas moi, fondé de grandes œuvres, etc. Mais Dieu rend témoignage à la foi, à ces personnes qui ont cru dans ses paroles sans voir se réaliser même de leurs yeux d'humains ce qu'il a annoncé. Ce que l'Épître aux Romains dit, tout cela, Ils sont morts, dit-il, sans avoir obtenu ce qui avait été promis. D'accord. Ils n'ont pas vu. Mais Dieu dit, ils ont une confiance en moi. Et Dieu rend témoignage à toutes ces personnes, à Noé, à Abel. Il part d'Adam, de Abel, je crois plutôt, hein, d'Abel, ici. Il commence avec Abel. C'est par la foi, verset 4, qu'Abel, en passant et en arrivant jusqu'à Rahab, la prostituée. Rappelez ça, qui a eu la foi. Dieu lui rend témoignage dans l'épître aux Hébreux. C'est extraordinaire. Parce que tout ce que ces personnes-là ont fait, que ce soit le sacrifice d'Abel, ou que ce soit l'hospitalité de Rahab, Dieu dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont eu foi dans la parole de Dieu. Rahab a eu foi que ce Dieu-là est un Dieu puissant. Elle a entendu parler de lui. Et donc, elle a exercé la foi en lui. Et toute cette foi que ces gens-là ont eue, c'est une foi qui pointait vers Jésus-Christ et la promesse des promesses. Ainsi, la vie commence par la foi, chers frères et sœurs, et elle se termine dans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 13 dit ceci, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. D'accord ? Ils ont vécu par la foi et ils sont morts dans la foi. D'accord ? Lorsque l'épître, dans l'épître aux Hébreux, si j'ai pas le verset sous les yeux, mais lorsque l'auteur dit aux croyants de considérer la vie de ceux qui ont été leurs responsables, leur chef, etc. Et il dit de les imiter, mais il dit considérer quelle a été leur fin. Quoi. Et après, il parle aussi, c'est-à-dire de la manière avec laquelle ils ont vécu, leur foi, hein, de la manière avec laquelle ils ont vécu ici. Je n'ai pas le verset en tête, mais si jamais ça revient, je vous le donnerai tout à l'heure. Donc la vie commence par la foi et se poursuit par la foi. Et l'apôtre Paul souligne cette vérité quand il parle aux Hébreux, aux Galates, quand il dit, après avoir commencé par l'esprit, voudriez-vous terminer par la chair? On pourrait dire, vous avez commencé par la foi et vous voulez terminer par les œuvres. Il dit, absolument pas. Absolument pas. Donc, la foi, ici, est le principe de la vie du croyant. C'est le principe par lequel le croyant vit, ici. Tous les jours de sa vie. Que les jours soient bons, que les jours soient mauvais. D'accord? Tout ce qu'il fait, que ce soit les choses spirituelles, et tout, doivent être vécues dans la foi, ici. Et c'est pour cela que quand des personnes disent, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, au travail, qui me dit, bon, moi j'estime qu'avec la laïcité, il faut que les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais quand ils sortent de chez eux, ils doivent oublier et laisser de côté ce qu'ils croient. Je dis, mais c'est impossible. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Tous les gens qui croient qu'il n'y a pas Dieu, ils sortent et ils le disent partout dehors. Et ils vivent en conséquence. On vit en conséquence de sa foi. Tout le monde a une foi. D'accord? Ici, quand on parle de foi, on parle de la foi en Dieu, dans les paroles de Dieu. Mais tout le monde a une foi. Tout le monde vit en conséquence de la foi qu'il a. Soit je vis en conséquence du fait que je ne crois pas que Dieu existe et qu'il n'y aura pas de jugement. Et donc, tout ce que je fais est basé là-dessus. Soit je vis avec la conviction que Dieu est là. Que ces paroles vont se réaliser. Et je vis d'une manière qui est différente. Que je sois chez moi, que je sois hors de chez moi. Je ne peux pas vivre sans exprimer cette foi-là dans ce que je fais. Mais heureusement que je le fais. Sinon, chez moi, je serais gentil. Puis à l'extérieur, je donnerais des coups de poing aux autres. Hein. N'est-ce pas? Donc l'aspect le plus irréductible de la vie, chers frères et sœurs, c'est la foi. Et notons qu'il n'est pas dit, le juste vivra, je l'ai dit tout à l'heure, par ses prières, par ses lectures, par sa patience, par sa douceur. Et toutes ces choses sont très importantes. Toutes ces choses sont importantes. Mais Dieu souligne que la foi en lui et dans ses paroles constitue le principe de vie du juste. Le juste vivra par la foi. Et c'est une assurance. Il ne dit pas qu'il, peut-être que s'il a la foi, il y a une chance qu'il s'en sorte. Non, il dit, il vivra. Par la foi. C'est à la fois presque un commandement, c'est comme ça qu'il faut vivre, mais c'est aussi la seule assurance qu'il a, c'est qu'il vivra au sein de la calamité, dans les difficultés qui peuvent se montrer par la foi. Et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui appelés à vivre au milieu de tout ce que nous voyons autour de nous, n'est-ce pas? De vivre dans la foi à la parole de Dieu. Je conclue en disant que la foi est le moyen par lequel on reçoit les bienfaits du salut. Je lis encore ce que nous avons dit tout à l'heure dans notre vérité fondamentale, catéchisme. Le Dieu, le Saint-Esprit, procède du Père et du Fils. Il est avec le Père et le Fils également Dieu éternel. Et il m'est aussi donné à moi pour me rendre participant, comment ? Par une vraie foi de Christ et de tous ses bienfaits. Et donc la foi est le moyen par lequel on reçoit les bienfaits du salut. Les choses du salut ne se voient pas. Quand la Bible nous dit, nous sommes justifiés par la foi, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, déclarés justes, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Quand on regarde de près, on voit que l'on pêche encore. C'est ça que l'on voit, n'est-ce pas? Et donc face à ce que nous pouvons ressentir comme accusation, n'est-ce pas, des autres, parfois de nous-mêmes, eh bien, la foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons accaparer, nous approprier tous les bienfaits du salut, qui sont vrais parce que Dieu lui-même le dit. Et l'apôtre Jean dit quelque chose qui est intéressant. Il dit, si notre cœur nous condamne, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est plus grand que notre cœur. Il arrive que des fois, notre cœur nous condamne. Il dit, ouais, t'as vu ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu dis que tu as la foi, mais non, c'est pas. Mais heureusement que ce ne sont pas les paroles de notre propre cœur, hein. C'est pas en elle que nous mettons notre confiance. C'est dans ce que Dieu a dit. Dieu est plus grand. Dans ce qu'il a dit, c'est ce qui est vrai. C'est pas ce que ton cœur te dit qui est vrai. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Et c'est là-dessus qu'il faut te baser. S'il dit qu'il nous pardonne et qu'il est juste pour nous pardonner quand nous confessons à lui, il nous pardonne. C'est pas le sentiment que nous ne sommes pas pardonnés qui est quelque chose. C'est la parole de Dieu qui fait autorité. Et si je crois à cette parole-là, eh bien, je vivrai, je serai pas dans la désolation parce que, voilà, je suis pas peut-être pardonné. Non, je vivrai vraiment parce que la Bible dit que tu es pardonné. Et je le crois. Je crois à ce que Dieu dit. Et donc, la foi est le moyen par lequel on reçoit vraiment les bienfaits du salut. Et j'ajoute aussi qu'il y a, juste je voulais aussi lire ce verset, là, dans 1 Pierre où il dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, nous, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc il y a une partie de notre salut que l'on ne voit pas encore, qui n'est pas encore réalisée. Les choses ne sont pas encore arrivées à leur pleine consommation. Mais par la foi, nous croyons et nous sommes gardés pour cela, à la fois par la puissance de Dieu et par la foi qu'il suscite en nous. C'est extraordinaire. Et puis deuxièmement, je souligne aussi qu'il n'y a qu'un seul mode de vie valable devant Dieu. Il n'y a qu'un seul mode de vie valable devant Dieu, c'est la vie par la foi. Soit qu'on vienne à lui dans la foi et qu'on commence à vivre par la foi, ou soit qu'on est déjà à lui, qu'on continue à vivre dans la foi. Mais il n'y a que la vie par la foi qui est la manière de vivre valable et aux yeux de Dieu. Et qu'il bénit, et qu'il honore, et à laquelle il rend témoignage, comme on a vu dans Hébreux chapitre 11. Sans la foi, il est quoi ? Impossible de lui être agréable. Je crois que le verset parle de lui, Hébreux chapitre 11, verset 6, parle de lui-même. Et puis, je vais juste terminer en disant que là où nous avons besoin de faire le plus grand progrès, c'est dans la foi, certainement. Si Dieu dit cela à Habacuc, c'est parce que c'est là que la pensée doit être focalisée. Et donc, c'est par là que nous avons besoin. C'est là que nous avons besoin de faire de plus grands progrès, ici. Dans 2 Thessaloniciens 1, 3, l'apôtre Paul disait, « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » La foi doit progresser, hein. Il y a des progrès que nous devons faire dans la foi, dans notre manière de nous appuyer sur la parole de Dieu, de la confiance que nous pouvons lui faire. Nous avons besoin tous de grandir dans ce domaine-là. Et les déficiences que nous pouvons connaître dans notre vie chrétienne, c'est pas parce qu'il y a pas assez de ceci ou pas assez de cela, c'est bien souvent parce que nous ne croyons pas suffisamment dans les paroles de Dieu. Nous ne croyons pas suffisamment ce que Dieu déclare dans sa parole. Les montagnes d'évidence du monde viennent se télescoper avec notre foi. Et comme quelqu'un disait, il disait, les deux choses ne peuvent pas cohabiter. L'une doit céder. Ou je fais confiance aux évidences que je vois dans le monde, ou je fais confiance à Dieu et à sa parole. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Nous avons besoin de grandir là-dedans. Je vous cite encore cet évêque anglican qui s'appelait Ryle, il dit, la foi est la racine d'un vrai tempérament chrétien. Ayez de bonnes racines et votre fruit sera abondant rapidement. Il dit, la foi est la racine d'un bon tempérament chrétien. Tout ce que je peux faire de ma vie chrétienne et tous les aspects spirituels reposent, ne seront pas plus forts que la foi que j'ai vraiment en Dieu. Prions. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Et nous te prions, comme les disciples ont prié, augmente notre foi. Aide-nous à vivre cette vie de foi que tu veux pour nous. Nous te louons parce que ce que tu nous commandes de faire, tu nous donnes les moyens de le faire. Et ton esprit nous est donné, comme nous l'avons récité, pour nous permettre de vivre par une vraie foi de tous tes bienfaits. Seigneur, aide-nous à considérer ta parole, à la serrer dans notre cœur, à apprendre malgré les évidences que nous pouvons voir dans le monde, que tu es Dieu, que tu es dans ton Saint-Temple, et comme tu le dis dans ce même chapitre d'Habacuc, que toutes les nations fassent silence devant toi. Et nous avons besoin, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que tes enfants aussi, de faire silence devant toi et de te contempler dans ton Saint-Temple et de nous soumettre à ta parole et de croire à ce que tu nous as dit, de ce que tu dis dans ta parole. Même quand ce que nos yeux peuvent voir, Seigneur, semble contredire ce qu'il y a dans ta parole. Nous te prions de nous donner cette foi par laquelle le juste vit, de nous aider à vivre avec cette foi que tu as suscitée en nous. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que tu les attires à toi et que tu les justifies par la foi en toi, pour la gloire de ton nom. Amen.